Europe 1.
Europe 1, 10h-11h, Mediapolis. Olivier Duhamel.
Bonjour à tous, c'est samedi, c'est Mediapolis, l'émission sur les rapports entre médias et politique, réalisée par Jean-Luc Arblad et préparée par Paul Lassen. Et aujourd'hui, nous avons deux invités qui viennent de publier ensemble un livre que nous citerons à de nombreuses reprises, « Le progrès ne tombe pas du ciel » aux éditions Fayard. Ces deux invités ont autre chose en commun que d'avoir écrit un livre, c'est que David Amiel et Ismaël Emelien sont en congé, figurez-vous. Ils sont en congé de l'Élysée, puisqu'ils étaient conseillers du président de la République et qu'ils ont quitté l'Élysée pour, disent-ils, faire la promotion de ce livre et surtout prendre l'air et faire autre chose. On va en parler, mais on commence comme d'habitude avec Cantou.
Édouard Philippe s'est donc exprimé au Grand Palais. Alain Juppé, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, vous l'avez trouvé comment, votre poulain ?
Écoutez, pour être tout à fait franc, seul sur scène, en orateur, je préfère Édouard Baird à Édouard Philippe. Quoique Édouard Philippe, peut-être très marrant aussi, entre ses bafouillages, nous l'avons entendu, ses savonnages, ses lapsus, on ne sait jamais où ça va aller. C'est un peu le cercle du soleil des discours, Édouard Philippe. Ce côté funambule, on ne sait pas où il va tomber, est-ce qu'il va tomber ou pas, on ne sait pas.
Bon, mais ça c'était pour la forme, mais pour le fond, le Premier ministre a dit qu'il fallait mettre fin à l'exercice. Aspirations fiscales. Ce sont quand même des termes forts, des mots forts.
Des mots forts, ce sont surtout des mots cons, à mon avis. Oui, parce que derrière, t'as intérêt à baisser les impôts pour tout le monde, sinon ça va gueuler sec. N'est-ce pas, cher Jean-Michel Apathy ?
Oui, tu l'as dit, Bouffi, c'est pas les sucettes, c'est pas les sucettes. C'est mon analyse politique.
Et vous, Alain Juppé, vous pensez qu'ils ne vont pas le faire, alors ?
Alors, moi, il y en a encore expliqué à toi. Oh, parce que allez. Toi, apparemment, pas comprendre. Si toi, pas payé impôt,
oui.
Et t'as pas payé fonctionnaire, mais toi, vouloir beaucoup fonctionnaire en France,
bah oui.
Donc toi, payer beaucoup impôt.
Ah, oui.
Eh ben, après 3 mois de grand débat, vous n'avez toujours rien compris. Écoutez, je me bats, on m'est saoulé.
Bah merci, alors j'y paie à bientôt quand même. Hein.
Et c'était donc Nicolas Canteloup sur Europe 1, mardi matin, mardi 9 avril. Première question, puisque vous êtes aussi des spécialistes de la communication politique, quand des hommes politiques font des lapsus, ou mieux, quand ils sont des champions des lapsus, comme Lionel Jospin ou Édouard Philippe, est-ce que ça leur nuit ? Est-ce que ça les rend sympathiques ? Ou est-ce que ça n'a aucun effet ?
Bonjour.
Ismaël Emelien.
Moi, je pense que ça n'a aucun effet.
D'accord.
Ça fait partie du naturel d'un individu.
D'accord. David Amiel, vous êtes d'accord avec lui, comme d'habitude ?
Alors, comme d'habitude, je ne sais pas, mais en l'occurrence, oui.
D'accord. Et sinon, vous pensez que Édouard Philippe est un bon communicant, une bonne communication politique ?
Ah, je trouve qu'il arrive à faire passer les messages de manière assez simple, assez directe,
d'accord.
Et qu'il arrive à dépolluer ses expressions de toutes les polémiques inutiles qu'on prête souvent aux intentions des uns et des autres. Donc je pense que oui, c'est quelqu'un qui fait bien.
David Amiel, est-ce qu'il a quand même un défaut ou une limite ?
Très certainement, comme tout le monde. Mais je crois que ce qui est important, et c'est pour ça que la communication à laquelle vous faisiez référence, en fait, quand on se pose la question de la communication, je pense que souvent, c'est qu'on n'est pas un bon communicant. Parce que quand on est un bon communicant, c'est précisément que ce qu'on retient, c'est ce qu'on dit, et pas la manière dont on le dit. Et je crois qu'en l'occurrence, pour Édouard Philippe, c'est le cas.
Enfin, on vit quand même dans un monde dans lequel on retient beaucoup plus la manière que ce qu'on dit, non ?
Bah, je crois que pour vous parler du Premier ministre, je crois que depuis 2 ans, finalement, c'est pas le cas.
D'accord. Et donc, il a dit qu'il fallait aller plus vite, plus fort pour la baisse des impôts. Donc, on va aller plus vite, plus fort pour la baisse des impôts.
Mais si le Premier ministre le dit, oui. Je vous confirme que ce sera le cas.
Et quand il le dit, on est d'accord pour essayer de comprendre bien. Forcément, il a parlé avant avec le président de la République.
Forcément.
Donc, il en sait plus que les autres sur ce que va dire le président de la République.
Ah bah oui.
D'accord. Le président de la République, il va s'exprimer, on y reviendra plus tard dans l'émission, mais sur le grand débat lui-même, est-ce que vous avez une idée de qui a eu cette idée ?
C'est le président.
C'est ce que je pensais aussi, vous confirmez ?
Tout à fait.
D'accord. Et il a testé autour de lui avant de la lancer ? Il en a parlé un peu à ses proches ?
Le président, il fonctionne toujours de la même manière, c'est-à-dire qu'avant qu'une décision soit prise, il y a une discussion qui est très libre.
D'accord.
Avec ses conseillers, puis avec des gens avec qui il a envie d'échanger, même en dehors de l'Élysée. Et donc, oui, il y a eu des discussions sur le...
Il y a des gens qui trouvaient qu'il y avait des réticences.
Alors, en revanche, on a un principe, là je parle aussi au nom de David, je crois, qui est que ces discussions-là, pour qu'elles soient libres, il faut qu'elles puissent rester secrètes.
Même après.
Même après.
Même dans 10 ans.
Même dans 10 ans.
Ben on est bien rendu.
On ne dira rien.
On sent qu'on va avoir une émission très intéressante avec vous.
Non, en dehors on va faire de notre mieux.
En dehors des confidences, dans le déroulé du grand débat, le bilan que vous en tirez, indépendamment même pour l'instant des mesures qui vont suivre, qu'est-ce qu'il a de positif, qu'est-ce qu'il a de plus réservé ?
Je pense que dans la dimension positive, il y a le niveau de participation. Mmh. Il y avait beaucoup de personnes qui avaient des doutes à l'origine sur le fait que les Français seraient intéressés par le processus même. Mmh. On a vu que c'était pas le cas, ils ont été intéressés, ils ont participé soit dans les réunions physiques, soit dans la...
Je dirais, ils ont été intéressés et à peu près 1 million d'entre eux ou un peu plus a participé, ce qui, moi, je trouve d'ailleurs est beaucoup, mais
exactement.
Il faut juste distinguer entre l'intérêt qui était très large et la participation, parce que les gens qui disent que 1 million c'est très peu ou je sais pas quoi, à mon avis, il leur échappe quand même quelque chose. C'est que vous avez, d'un côté, vous avez 43 millions d'électeurs potentiels, 20 à 30 millions, 35 millions de personnes qui, selon l'élection, votent. Et de l'autre, entre l'élection reine qui est la présidentielle, c'est-à-dire pendant 5 années, les seuls qui ont accès à l'espace public, ce sont, je ne sais pas moi, 2000, 3000 personnes, oui, parmi lesquelles nous d'ailleurs. Mais,
plus vous que plus. Nous d'ailleurs.
Et donc passer de 1 million de personnes qui se parlent et qui parlent au pouvoir par rapport à quelques milliers, c'est quand même un changement considérable.
Ah bah c'est clair, et je pense d'abord que c'est un démenti en fait à beaucoup de choses qu'on disait habituellement. C'est-à-dire qu'on dit précisément que les gens ne sont pas... ne sont pas intéressés par les sujets politiques quand c'est pas en période électorale, donc là ça prouve que c'est le cas quand même, que les gens ne sont pas intéressés par les sujets politiques quand ils deviennent trop techniques. Et moi j'étais très frappé par le fait que parmi les thèmes qui ont suscité le plus d'intérêt dans les contributions à la fois sur internet et dans les réunions physiques, c'était des sujets qui souvent étaient très techniques, en l'occurrence la question des dépenses publiques, dont on aurait pu penser que c'était assez aride, et bah au contraire ça a suscité un très fort intérêt. Et puis la troisième chose, c'est qu'on disait que les gens étaient finalement dans une attitude très individualiste de réclamation personnelle, et on voit qu'il y a un très fort appétit pour au contraire discuter, échanger avec les autres, qui est un appétit qu'on a vu d'ailleurs sur les ronds-points dès l'automne, et qu'on a vu aussi dans les assemblées du grand débat depuis. Donc je crois que tout ça est très positif, et la question qui se pose à nous tous en fait, c'est de savoir comment on utilise cette énergie au-delà du grand débat pour les mois et les années qui viennent. Et je pense que c'est vrai pour l'État, c'est vrai pour les partis politiques et c'est vrai en fait pour toutes les organisations.
Dans l'immédiat, pour le président de la République, est-ce qu'une des grandes difficultés n'est pas que, dans le fond, il doit répondre à ou articuler 4 types de problèmes de public, d'attentes différentes. C'est-à-dire, d'un côté, il doit d'une certaine façon répondre aux Gilets jaunes. D'un autre côté, il doit d'une certaine façon répondre aux participants du grand débat qui ne disent pas toujours la même chose que les premiers. D'un troisième point de vue, il doit répondre à l'ensemble des Français, ce qui fait encore, sur certains sujets, des réponses différentes. Et il doit articuler ces 3 publics auxquels il doit s'adresser avec un minimum de respect de ce qu'il appelle son cap ou tout simplement ses engagements de campagne. Et alors, s'il ne bouge pas de ses engagements de campagne, c'est qu'il n'a rien entendu. S'il bouge trop... c'est qui se dédie, c'est comment on arrive à sortir
là, de ce... Vous venez de décrire, indépendamment même du grand débat, le rôle du président de la République, effectivement d'articuler en permanence des intérêts qui sont parfois divergents entre différentes catégories de la population pour dégager l'intérêt général. Après, sur la question du cap, et là encore une fois, sans rentrer du tout dans ce que le président pourrait être amené à dire à l'issue du grand débat, notre sentiment à David et à moi, c'est que beaucoup de choses qui ont été dites par les Gilets jaunes et qui ont été dites dans le grand débat ont plutôt confirmé le cap. C'est-à-dire que ce que les Gilets jaunes exprimaient, et c'est un paradoxe qui nous a été, qui nous est revenu assez violemment dans la figure, c'est des choses qui ont été dites pendant la campagne présidentielle par Emmanuel Macron.
En quoi est-ce que les Gilets jaunes... Attendez. En quoi ? Les questions, c'est moi. Les réponses, c'est moi.
Mais j'étais en train d'y répondre, c'est pour ça.
Oui, non, mais moi, je suis en train de reformuler ma question, c'est pour ça.
Allons-y.
Hein ? Donc, en quoi, diable, est-ce que les demandes des Gilets jaunes correspondaient au cap fixé par le président de la République dans sa campagne ? Vous nous répondez. Dans quelques instants.
De 10h à 11h, vous êtes avec Olivier Duhamel pour Mediapolis. Et Olivier, à vos côtés ce samedi, on retrouve David Amiel et Ismaël Emelien, anciens conseillers d'Emmanuel Macron et auteurs de Le Progrès ne tombe pas du ciel aux éditions Fayard.
Voilà, et qui avançait cette idée originale. Attendez, juste avant, je fais le point qu'on aime bien dans l'émission sur à l'acte 23, je crois, des Gilets jaunes. 24, 22, 22, 22, 22, c'est plus approprié que d'habitude. Ben, y a encore deux chaînes infos sur quatre qui sont sur les Gilets jaunes. Donc, on se demande quand ça s'arrêtera. Alors, nos invités, donc David Amiel et Ismaël Emelien, vous venez de le dire. Ismaël Emelien était conseiller spécial du président de la République, excusez du peu. Et je lui demandais tout à l'heure, juste avant la pause, je lui demandais de m'expliquer son idée, quand même assez saugrenue, selon laquelle, entre les revendications des Gilets jaunes et les engagements du président de la République en campagne, il y avait une vraie harmonie. Alors, expliquez-nous ça, esprit original. Non,
je n'ai pas parlé d'harmonie. J'ai dit qu'il y avait, j'ai dit qu'il y avait deux choses.
Et qu'il y avait des correspondances.
Oui, qui faisaient écho à ce qui avait été dit pendant la campagne. La première, c'est que les Gilets jaunes, ils demandaient essentiellement de vivre de leur travail.
Oui.
Donc, ils considéraient que le fait d'avoir un emploi ne garantissait plus un revenu suffisant pour pouvoir se loger suffisamment près des centres-villes et plus loin des ronds-points, de disposer d'un véhicule qui permette de se déplacer, de l'argent pour pouvoir acheter le carburant,
d'accord,
etc. Et la deuxième chose qui est importante, c'est qu'ils ne se reconnaissent ni dans la gauche ni dans la droite, et qu'ils ont refusé totalement d'avoir un débouché dans les partis habituels.
Non mais attendez, il y a plein de zozos qui se reconnaissent ni dans la gauche ni dans la droite. Si vous voulez accaparer tous en disant ils sont d'accord avec nous, vous allez un peu vite en besogne.
Non, mais je crois qu'il faut aller... Pour aller au-delà de ça, je crois qu'on a bien vu que quand les Gilets jaunes ont survenu, la gauche et la droite se sont ruées pour essayer de les faire passer au tamis de leur propre grille d'analyse et que les deux ont échoué.
Oui.
La gauche a échoué parce que la mauvaise nouvelle pour elle, c'était qu'on voyait des classes moyennes et des classes populaires qui se soulevaient, non pas pour demander plus d'impôts et plus de dépenses publiques, mais plutôt moins d'impôts et plus de travail. Et puis la mauvaise nouvelle pour la droite, sa source de frustration à elle, c'est qu'on voyait des gens qui se mobilisaient pour des revendications qui étaient d'abord des revendications d'une part économique et sociale dont on vient de parler, puis d'autre part une demande de reconnaissance politique, d'expression, mais pas du tout une demande identitaire. Il y a une sorte de frustration à droite de dire c'est quand même un peu dommage.
Donc là, ça vous plaisait bien. Et alors après, les Gilets jaunes se sont mis à dire ric, 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 et Macron démission, Macron démission, Macron démission, ils étaient toujours en harmonie avec le président de la République.
Non, je pense que c'est... Pardon, sur le ric... Je pense que la première demande, après on y reviendra, mais je pense que la première demande, c'est d'être entendu par les responsables politiques. Et il y a le sentiment, finalement, chez beaucoup de citoyens, et qui ne date pas d'aujourd'hui, hein, qui date d'il y a 20-30 ans, qui s'est accumulé, que finalement, ce dont parlent les hommes politiques. Mais Macron démission, ça montre quoi ?
C'était pas en harmonie avec le président, quand même, ou alors
non,
je comprends plus rien.
Mais justement, non, ce qu'on voulait dire, c'était qu'en 2017, Emmanuel Macron a exprimé un programme, un projet qui correspondait à des aspirations profondes de la société. Deux ans plus tard, on voit ces aspirations qui ressurgissent, mais qui sont cette fois renvoyées en pleine figure du pouvoir actuel et au premier chef d'Emmanuel Macron. Et donc, toute la question qui se pose à nous, c'est qu'est-ce qu'on a manqué pendant les deux ans pour qu'il y ait cette inversion ? Donc je crois que c'est ça la question qui se pose à nous, et c'était partie des choses qui devront être corrigées à l'issue du grand débat.
Donc David Amiel vient de vous demander, Ismaël, qu'est-ce qui a manqué ? Ismaël Emelien, vous répondez ?
Ben, il a manqué clairement, et c'est d'ailleurs la raison principale pour laquelle on a écrit ce livre et les réponses qu'on essaie d'y apporter dedans. Il a manqué une méthode. Une méthode qui fasse plus largement la place aux citoyens sur deux points essentiels. Et c'est là où on pourra reparler du RIC, mais il nous semble qu'il y a beaucoup de débats sur le moment où on demande aux citoyens d'exprimer leur voix, leur décision, et qu'en réalité, au-delà de ça, on a besoin d'eux pour partager un diagnostic en amont de ce qui sera décidé. Et donc c'est exactement l'objet du grand débat. C'est d'arriver à déterminer...
Vous étiez censé avoir fait ça pendant la campagne avec un machin qui s'appelait En Marche et qui faisait un tour de France.
Ouais, c'est vrai.
On ne l'avait pas fait, en fait, c'était du bidon.
Non, on l'a fait, et c'est pour ça qu'on estime que ce diagnostic était juste et qu'il a trouvé un écho dans les revendications des Gilets jaunes. Il n'a pas été partagé jusqu'à
eux. Vous allez trop vite en besogne. Vous avez fait, avant la présidentielle,
oui,
une grande enquête en France, En Marche,
oui,
qui a posé un diagnostic.
Ça s'appelle La Grande Marche.
Juste.
Oui.
Et vous me dites, c'est pour ça qu'il est en écho avec les Gilets jaunes. Mais entre les Gilets jaunes et En Marche, il y a eu un président élu
qui
n'a pas fait écho à ce qu'il avait recueilli dans sa campagne.
Ce qu'on est en train de dire, c'est pour ça qu'on revient sur la question du cap, dont on considère que le cap est bon, c'est que le diagnostic qui avait été fait par En Marche pendant la campagne, il correspond aux revendications exprimées par les Gilets jaunes. L'échec...
Mais pendant 18 mois, on n'a rien fait pour le satisfaire.
Alors non, ce n'est pas qu'on n'a rien fait.
On n'a pas fait beaucoup.
D'abord, on n'a pas fait assez vite, ça c'est sûr. C'est-à-dire que les Gilets jaunes, typiquement...
Vous avez fait très vite pour l'ISF.
Si je peux juste répondre à la question. On a fait très vite.
Oui.
Les Gilets jaunes, ce sont typiquement des personnes qui sont confrontées à un ensemble de contraintes et qui sont tellement justes en termes de budget que le jour où une des contraintes dérape, le budget n'est plus tenable.
Ça passe plus, d'accord.
Voilà, comme le carburant. Et donc le carburant a augmenté d'un coup parce que la taxe sur le carbone a augmenté et que à l'inverse les éléments d'aide qui leur ont été apportés, donc la baisse de la taxe d'habitation, ont été faits en plusieurs fois.
Oui.
Et donc là, ça a été corrigé au mois de décembre par le président de la République qui a accéléré ce qui avait été prévu, qui a dit bon. Donc c'est pas vrai de dire qu'il y a des choses qui n'étaient pas faites. Après, il y a un problème de méthode qui fait qu'il y a trop d'éléments qui ont été faits depuis deux ans mais qui ne sont pas arrivés jusqu'à destination. Je donne un exemple. On a mis en place dès le début de l'année 2018 une prime pour aider ceux qui en avaient besoin à changer de véhicule. Parce que c'est toujours les mêmes qui ont des véhicules qui sont polluants, parce qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter un véhicule qui l'est moins. Et les véhicules les plus polluants sont aussi ceux qui consomment le plus. Donc c'est un cercle vicieux. Bon. Cette prime à la conversion, elle a été mise en place début 2018, et au bout de quelques mois, on s'est aperçu qu'il y avait quelques centaines de personnes qui l'avaient demandé seulement.
D'accord.
Le problème, c'était que personne n'était au courant qu'elle existait.
C'est pour ça que je pense, mais je soumets ça à votre appréciation, qu'un des problèmes, c'est que les mesures que vous avez prises en faveur des plus favorisés, elles ont été immédiates. La suppression de l'ISF, que d'ailleurs vous auriez mieux fait d'appeler la réforme de l'ISF, elle a été immédiate. La flat tax qui fait que sur les dividendes, on payait plus que 30% d'imposition, elle a été immédiate. Et les mesures en faveur de plus de Français, elles ont été toutes différées. Ça,
non,
c'est quand même...
Non, c'est pas... Pardon, mais c'est pas vrai.
Enfin, une partie d'entre elles ne produisait leur effet que dans le temps, c'est ce que vous venez de dire. Donc, David Amiel, là, il y a quand même eu une erreur de stratégie politique, et vous allez le reconnaître parce que vous êtes honnête, ou vous en tirez par une figure de rhétorique parce que vous êtes très doué, dans quelques instants.
Ismaël Emelien et David Amiel, anciennement conseillers d'Emmanuel Macron, seront des invités ce matin, Olivier Duhamel, dans Mediapolis.
Et David Amiel, je vous posais la question suivante. Faire très vite, tout de suite applicable et perceptible pour les riches, faire différé et moins perceptible pour les moins riches, ou les pauvres, ou les classes moyennes, est-ce que ce n'était pas la grande erreur stratégique d'Emmanuel Macron, élu président de la République ?
En tout cas, je crois que ça a été une erreur politique. Pourquoi on l'a fait ? Parce que les mesures pour le travail étaient bien plus nombreuses, et donc c'est l'envers de la médaille, bien plus coûteuses que les mesures qu'on avait en faveur de l'investissement. Et donc, on avait décidé de les étaler dans le temps pour des raisons budgétaires et techniques. Clairement, ça a créé un sentiment de déséquilibre. Est-ce qu'on l'a corrigé depuis le 10 décembre ? Oui, et d'ailleurs, quand on fait les additions, on voit que quand on a donné 1 euro pour l'ISF, on a donné 3 pour le travail.
C'est bon. Vous avez reconnu une erreur, c'est bon. Vous n'êtes pas intégralement langue de bois, là, vous ne l'avez pas été du tout, c'est parfait. Alors, on passe à un autre sujet qui me préoccupe sur... notre vie démocratique. On approche d'une campagne électorale pour les élections européennes et donc se pose la perpétuelle question des débats. Et on se trouve en France avec cette particularité que on exige, en tout cas dans le service public, ce qu'on appelle l'égalité, et on fait des débats qui deviennent des non-débats. Parce que quand vous avez 10, 12 candidats, on n'y comprend plus rien. Écoutez d'ailleurs ce que disait une des candidates, celle sur la liste Place Publique PS, sur France Inter mardi.
C'est sûr que le débat à 12, c'est un zoo, en fait. Je ne sais pas ce que ça a donné comme image de la politique française, mais on avait une espèce de carnassier, là, de fauve, surentraîné, hein, en termes de médias, coaching, etc.
C'était donc Claire Nouvian, candidate, je viens de le dire, sur la liste Place Publique PS, pour les élections européennes, et qui dénonce le zoo. Et moi, je dénonce la crétinerie d'une chronodémocratie dans laquelle on prend les chronomètres et on mesure les temps de parole de chacun. Parce que c'est deux fois stupide, même trois fois stupide. C'est stupide parce que c'est pas parce que quelqu'un parle qu'il récolte des voix, même parfois c'est l'inverse. Donc on pourrait compter son temps de parole pour les opposants, puisqu'il les sert quand il est pas bon. C'est stupide parce qu'il y a plein de choses qu'on compte pas. Ça fait des mois qu'on voit les gilets jaunes en permanence, les gilets jaunes qui arrêtent pas de taper sur le pouvoir, on les compte pas de temps de parole de l'opposition, alors que si on faisait les choses sérieusement, on devrait les compter. Et c'est stupide parce que ça interdit des vrais débats. Alors, Ismaël Emelien a une particularité, c'est d'avoir été conseiller du président de la République, ça c'est pas la seule, et d'être un communicant politique, mais c'est le seul communicant politique que je connaisse qui n'écoute pas la radio, qui ne regarde pas la télévision. Même Mediapolis, il n'écoute pas. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du scandale. Bon, et là-dessus, je vais quand même lui demander ce qu'il pense des débats à la télévision sur ce mode, bien qu'il ne les regarde pas.
Un résumé un peu rapide. Est-ce que je peux rajouter deux stupidités aux trois que vous avez évoquées ?
Oui.
D'abord, l'égalité du temps de parole fait que plus on se rapproche de l'élection, moins on en parle. Parce que les chaînes et les radios sont confrontés à un problème
insoluble. Parfaitement exact.
Bon. Et le dernier, c'est qu'on réglemente tout ce qui se passe sur la télé et la radio, mais rien de ce qui se passe sur Internet. Alors qu'aujourd'hui, les gens passent plus de temps sur Internet pour s'informer qu'ailleurs.
Alors je vais vous dire, c'est parfaitement juste. Ça fait 5 bêtises voilà. Au lieu de 3.
Donc on est d'accord.
Et moi qui commençais à regretter de vous avoir invité, vu que vous écoutez jamais Mediapolis, comme vous dites des choses comme ça, ça nous est utile quand même.
Alors après,
donc vous écouterez à l'avenir.
J'écouterai à l'avenir. Concernant les débats, moi, je suis très d'accord avec tout ce qui a été dit. C'est vrai que quand on est à 8 ou 10 ou 12, bah forcément ça rend le truc parfaitement incompréhensible. Par ailleurs, il y a des règles à chaque fois qui font que ce n'est pas vraiment un débat, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interpellation entre les candidats. Donc on voit bien qu'on arrive au bout d'un système institutionnel en matière de campagne qu'il faut repenser. Mais d'ailleurs sur beaucoup d'autres sujets, sur la question du financement, sur la question de ce qui se passe sur Internet, sur la question de tout ce qui fait des barrières à l'entrée. Pour pénétrer dans le système politique aujourd'hui, et que nous on a vécu.
David Daniel, vous avez encore une chose intelligente à rajouter après celle qu'on vient d'entendre, qui était intelligente et intelligible, ce qui est pas mal pour une émission de radio.
Alors ça, c'est véritablement atroce comme présentation, parce que ça me met dans une seringue impossible. Non, je pense qu'il y a un grand paradoxe aussi de notre époque, qui est qu'au fond, le débat public, c'est ce que vous dites, baisse de plus en plus en termes de niveau, alors que le niveau de la population en termes d'éducation, en termes d'intérêt pour le débat public, augmente. Et donc il y a cette tension-là qui crée un phénomène, et je pense qu'on en reparlera, mais qui alimente aussi beaucoup de ce qui se passe sur Internet, etc. C'est-à-dire faute d'avoir un débouché en termes de compréhension, d'interaction, de débat public satisfaisant dans les médias officiels, et bien les gens s'emparent d'autres médias parallèles, et je crois que c'est un des grands problèmes aussi de notre époque.
Et sur cet affaiblissement du débat public, moi, je pense qu'une des causes est quelque chose qui vous réjouit formidablement, c'est-à-dire l'affaiblissement, voire la disparition du clivage droite-gauche. Et d'ailleurs, dans votre livre, Le progrès ne tombe pas du ciel, chez Fayard, que vous m'avez demandé de citer 2-3 fois dans l'émission, dans ce livre, vous insistez sur le fait que ce clivage est totalement périmé et que c'est une très bonne chose. Et moi, je crois que c'est très contestable. Ah, vous n'insistez pas là-dessus ? Ah, vous avez peut-être pas écrit. Vous avez lu le livre
oui.
où c'est, non, c'est Ismaël qui a tout écrit, non, vous co-signez.
Non, on le constate, mais on ne s'en réjouit pas.
Bon, alors moi j'ai compris que vous vous en réjouissiez. Vous vous dites que vous en réjouissez pas. On s'explique dans quelques instants.
Mediapolis continue jusqu'à 11h avec vous, Olivier Duhamel, mais avec aussi David Amiel et Ismaël Emelien, ancien conseiller d'Emmanuel Macron et auteur de Le progrès ne tombe pas du ciel aux éditions Fayard.
Et on s'interroge maintenant sur la pertinence ou non du clivage droite-gauche, sur son utilité, sur le besoin de le dépasser. Écoutez ce qu'on a dit un des coordinateurs du Grand Débat, Sébastien Lecornu.
Pour rien au monde, il ne faut réinventer ce clivage gauche-droite. Et fondamentalement, le réinventer et le réinstituer au sein de la majorité présidentielle, je pèse mes mots, serait stupide. Il n'y a pas de contrepoids à avoir, puisque fondamentalement, nous ne sommes pas là pour réinventer des clivages gauche-droite. Ça serait une erreur, une faute. Que les deux ministres de Bercy, qui sont des ministres engagés, qui font attention effectivement au cordon de la bourse, si, donc ils font un tout petit peu attention à l'argent des Français, ça devrait quand même rassurer tout le monde, qu'ils disent des choses sur le terrain des économies, oui, je pense que c'est plutôt rassurant. C'est pas un problème de gauche-droite que d'expliquer qu'il faut moins d'impôts et faire des économies.
À Serge Lecornu, pour avoir les deux pôles du débat, j'ajoute le philosophe...
Sébastien.
J'ajoute le philosophe Alain, décembre 1930. Lorsqu'on me demande si la coupure entre parti de droite et parti de gauche, homme de droite et homme de gauche, a encore un sens, la première idée qui me vient est que l'homme qui pose cette question n'est certainement pas un homme de gauche. 1930. Pas mal, quand même. Alors, monsieur Amiel, la coupure droite-gauche, dépassée ou pas, bonne chose, qu'elle le soit ou pas?
Alors, il y a deux questions. Je pense que la question de savoir, effectivement,
possible,
donc, est-ce qu'il est dépassé? Nous, ce qu'on pense, c'est que oui. Déjà, je pense que le clivage gauche-droite n'est pas éternel. En fait, il a une naissance. On peut le dater à peu près à la fin du 19e siècle. Quand on voit les oppositions au 19e, ce n'est pas du tout en termes de droite-gauche. C'est République contre monarchie.
En fait, c'est date de la fin du 18e siècle. C'est même là qu'il est inventé.
Au 19e siècle, les gens ne se repèrent pas en fonction de la droite et
inventé.
De la gauche.
Non, mais c'est bon de le savoir. Il a été inventé
à
la Révolution française.
Mais le moment où
avec les gens qui se sont mis à droite ou les gens qui se sont mis à gauche du président de l'Assemblée. Et les gens qui se sont mis à droite, non mais c'est intéressant pour les gens qui ne savent pas d'apprendre ça, et les gens qui se sont mis à droite du président de l'Assemblée étaient pour le pouvoir du roi, le veto laissé au roi. Et les gens qui se sont mis à gauche étaient contre ça, naît là.
Mais
intéressant.
Ça a ses origines là, voilà. Mais ça naît véritablement d'accord. beaucoup plus tard. Okay. Parce que quand vous vous mettez en 1830, 1840, d'accord. 1850, vous connaissez ça par cœur, personne ne se dit de droite ou de gauche.
Non, mais vous avez raison. En plus, en régime, on dit d'arrêter de parler du passé. Donc exactement. Si je remonte à 1830, on n'en sort pas.
Donc, je crois que c'est très important de se dire que si ça a une naissance, ça peut avoir une mort. Ensuite, la deuxième chose, c'est que c'est quelque chose qui ne doit rien aux circonstances. Si ça ne devait qu'aux circonstances françaises de l'élection de 2017, bah, d'une part, on n'aurait pas eu un effondrement de cette ampleur. Quand on regarde PS plus Républicains, ça fait seulement 25% aux deux. Les deux additionnés font seulement 25% au premier tour.
Oui, à ce moment-là,
on ne l'observerait pas dans plein d'autres pays occidentaux, Royaume-Uni, Italie.
Royaume-Uni,
quand on voit que le grand... regardez la grande question politique qui se pose au Royaume-Uni aujourd'hui, qui est la question du Brexit, elle fracture au sein du camp travailliste comme au sein du camp conservateur. Regardez l'Italie. Est-ce que le gouvernement qui gouverne l'Italie est de gauche ou de droite? Vous avez à la fois des populistes qui viennent plutôt d'extrême gauche et puis des gens qui viennent plutôt d'extrême droite. Et regardez les États-Unis, Trump n'est pas la droite américaine traditionnelle. Donc c'est quelque chose qu'on observe un peu partout.
Je ne suis pas d'accord avec vous, mais je vous laisse développer votre point de vue.
Voilà. je vous remercie. Ensuite, la question qui se pose, c'est de savoir si on s'en réjouit. Pas du tout. Parce que la droite et la gauche permettaient une chose essentielle, qui était qu'elles permettaient des alternances constructives. C'est-à-dire que quand vous étiez de gauche, vous saviez que si vous perdiez, eh bien c'était une droite républicaine, démocratique qui venait au pouvoir, et puis réciproquement, quand la droite était au pouvoir et qu'elle cédait sa place. Et aujourd'hui, dans l'affrontement qu'on a contre les populistes, la situation n'est pas du tout la même, elle est beaucoup plus dangereuse. Si Marine Le Pen vient au pouvoir, ce ne serait pas tout à fait comme si la droite traditionnelle revenait au pouvoir. Et donc, la question qui se pose à nous, c'est comment permettre de revenir le plus vite possible à un clivage qui soit sain, démocratique, constructif. Mais pour ça, je crois que la première chose à voir, c'est de comprendre que les partis traditionnels avaient échoué, que c'est ça qui a créé la montée des populistes. Il faut pouvoir répondre à cette colère pour revenir au plus vite à un débat constructif.
Donc Macron, quand il prône le clivage progressiste-populiste, d'après exactement ce que vous venez de dire, a tort, parce que soit ça ruine l'alternance, soit ça fait une alternance dangereuse, et il faudrait susciter un autre clivage, par exemple progressiste-conservateur. Je vais demander à Ismaël Emelien de répondre à la deuxième partie de la question, parce que quand même je ne suis pas complètement naïf et débile, et je sais que je ne lui ferai pas dire que Macron a tort. Mais donc je vais lui poser la question sur la deuxième partie. Est-ce que le clivage de demain, c'est un clivage progressiste-populiste inéluctablement, ou est-ce qu'on ne peut pas, est-ce qu'on ne doit pas lui substituer un autre clivage, et si oui, lequel ? Dans quelques instants.
Comme chaque samedi, on vous retrouve, Olivier Duhamel, avec Mediapolis. Et aujourd'hui, vous recevez David Amiel et Ismaël Emelien, anciens conseillers d'Emmanuel Macron.
Droite-gauche, un clivage de moins en moins pertinent. Progressiste-populiste, un clivage dangereux. Alors, quid, Ismaël Emelien ?
L'important dans tout ça, c'est qu'on constate ce clivage. Et on ne le souhaite pas, on ne le fabrique pas, on ne le renforce pas, au contraire. Tout ce vers quoi est tournée l'action de la majorité et du président, c'est d'assécher toutes les raisons pour lesquelles beaucoup de Français, légitimement, ont des raisons d'être mécontents et donc sont plus vulnérables au populisme. Et je pense que la question qui se pose, c'est beaucoup aux partis traditionnels de gauche et de droite, qui ont échoué sur un certain nombre de sujets et qui, on l'a bien constaté depuis plusieurs années, n'ont plus grand-chose à dire sur les nouveaux sujets. Bien malin qui peut dire quelle est la position de gauche ou la position de droite sur la transition environnementale, sur la révolution technologique, sur même la question des territoires qui est au cœur de la mobilisation des Gilets jaunes. Et donc ça, c'est pas un procès qu'il faut nous faire à nous, de dire pourquoi est-ce que vous êtes là et qu'en face de vous il y a des populistes. Ça, c'est un examen de conscience qui doit être beaucoup plus large et qui fera qu'un jour, il y a un renouvellement d'autres idées. Mais de la même manière que pendant très longtemps, mais vous savez ça beaucoup mieux que moi, parce que si j'ai jamais écouté Mediapolis, j'ai lu vos livres. Le clivage qui a structuré la vie politique française pendant des décennies, ça a été celui qui opposait les monarchistes aux républicains. Puis un jour, les républicains ont gagné. Et au sein des républicains, il y a eu des clivages qui étaient très féconds et qui ont permis les alternances. Il n'y a aucune raison de désespérer du fait qu'un jour, les populistes seront asséchés et qu'il y a un grand camp progressiste, républicain, démocratique, au sein duquel se feront des alternances.
Mais alors, quand vous dites que le président de la République cherche à assécher les sources du populisme, je trouve qu'il y a quand même, là je suis obligé non pas de vous faire un procès, mais d'émettre une critique à l'encontre du président, et peut-être pour part de vous qui le conseillait. Je trouve que s'il y a une chose qui a entretenu quand même le populisme, ce sont les petites phrases perçues comme extrêmement arrogantes du président de la République à l'encontre de personnes qui n'ont qu'à traverser la rue pour trouver un boulot, des personnes qui, enfin j'en passe et des meilleurs, on en a beaucoup en tête. ça quand même, ça lui a fait tort et ça a profité au plus populiste des Gilets jaunes, David Amiel, non ?
Honnêtement, sur les petites phrases, il y a deux manières.
Quand vous commencez par...
Non, mais parce que je connais le niveau de votre émission, donc j'essaie de trouver une réponse qui vous satisfasse.
Non, pas qui vous satisfasse, qui fasse ce que vous pensez de ce sujet, parce que c'est un vrai sujet quand même.
Bah, je crois beaucoup moins que ce qu'on dit.
Ah bon ?
Je pense que honnêtement, si la montée des populistes le devait à l'expression de tel ou tel responsable politique, et bah, honnêtement, ce serait assez simple à régler, on n'en serait pas là du tout.
Mais ça, c'est pas bête comme réponse, parce que évidemment que ce point-là est exact.
Mais c'est le point le plus important.
L'effet de ce comportement franc, direct, sincère, agressif, arrogant, méprisant, vous pouvez mettre tous les six adjectifs, vous pouvez en mettre trois positifs, trois négatifs, les six sont vrais. Vous pensez que ça a eu très peu d'effet et que c'était pas grave du tout?
C'est difficile.
Dites-moi que vous pouvez pas me répondre, je sais pas moi.
Non, pas du tout, mais je trouve que c'est très difficile de mesurer leur effet. Je pense qu'en plus, elles n'ont pas toutes eu le même. Je pense qu'en fait, c'est un peu la rançon de la franchise du président. Donc, je pense que c'est quelque chose qui lui est plutôt crédité. Je pense que c'est quelque chose qui a tranché. Mmh. Ouais, bien sûr, qui a tranché par rapport à ce que représentaient tous les autres hommes politiques. La rançon de ça, c'est qu'effectivement, il y a eu un certain nombre d'interprétations qui, du coup, montraient que ces phrases n'avaient pas été bien calibrées, puisque ce n'était pas du tout leur but. Mais je crois qu'elles ne montrent rien de plus important que cela. Par contre...
Attendez, parce que j'ai une question sur le même sujet à Ismaël Ebolia. On vous attribue, moi je lis ce que disent les commentateurs qui fréquentent l'Élysée, ce qui n'est pas mon cas... On vous attribue l'origine de la phrase, de l'image, de la métaphore du président de la République sur le premier de cordée. Et moi, je pense que cette image est absolument mauvaise. Parce que je me mets dans la peau des Français qui ont des fins de mois difficiles. Et l'idée pour eux que si Arnaud ou Pinault gagnent plus d'argent, ça va être bon pour eux, c'est juste une blague. Personne ne peut penser, formidable, Arnaud a gagné beaucoup plus, je vais en gagner plus.
C'est pas du tout ça l'image du premier de cordée.
C'est perçu comme ça.
Non, pas forcément. Le premier de cordée, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a un lien, une corde, qui relie l'ensemble de l'individu. Et le premier de cordée, vous savez, quand on fait de la montagne, il ne tire pas les autres. Même à l'inverse, le moment où il retient les autres, c'est à la descente. Donc ce que ça veut dire juste, c'est que ceux qui sont en position de premier de cordée, donc qui sont à l'avant, ont une responsabilité envers les autres. Et c'était une manière de dire ce que le président dit de nombreuses reprises et de d'autres manières, que la responsabilité de ceux qui ont réussi en France, elle est de rendre une partie de ce qu'ils ont, de ce pourquoi ils ont réussi.
C'est très intéressant, Ismaël Emelien, parce que franchement, c'est pas comme ça que ça a été perçu. Ça a été traduit, vraiment, d'ailleurs, c'est pas pour rien que tout le monde l'a traduit par le ruissellement. Vous dites, ça veut pas dire ça.
C'est pas faux d'avoir dit un milliard de fois qu'on ne croit pas à la théorie du ruissellement.
Mais vous êtes communicant politique, vous savez bien qu'il y a... Bon, alors vous n'êtes pas spécialiste de la communication politique.
Non, c'est pas mon.
Bon, vous êtes spécialiste de quoi alors ?
Bah de pas grand chose en particulier.
Non, ça va, c'est bon, ça va. Sois sérieux là. Vous avez bien un boulot.
Oui.
C'était quoi votre boulot ?
De conseiller le président.
Oui.
Sur le fond des messages, sur le contenu de ce qu'il fallait faire, et sur la manière de le dire.
Ah, d'accord. Voilà. Oui, mais dans la manière de le dire, vous savez bien dans le monde dans lequel on vit qu'il y a la rationalité
et il y a la perception.
Et la perception.
Et que c'est la perception qui fait foi. Je suis d'accord avec vous.
Et la perception, c'était ruissellement.
Oui, donc c'est pour ça que je vous explique que ce n'était pas l'intention initiale de cette phrase-là.
D'accord.
Et que ce n'est pas du tout ce que le président voulait dire.
Donc c'est un de vos rares ratés.
Alors par ailleurs, je répète que j'assume 100% de ce que le président a dit ou fait parce qu'on le conseillait, mais que je n'entrerai jamais dans la paternité de telle ou telle idée ou pas.
Ah, ça c'est
bien. Mais c'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, je ne lis pas les commentateurs dont vous parlez parce que ils écrivent sur des choses qu'ils ne savent pas.
Très bien, très bien, très intéressant. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté de la Manche, diable ? Il se passe des trucs ? Dans un instant.
À la suite de Mediapolis, c'est jusqu'à 11h avec vous, Olivier Duhamel, mais avec aussi vos deux invités du jour, Ismaël Emelien et David Amiel, anciens conseillers d'Emmanuel Macron et auteurs de Le Progrès ne tombe pas du ciel aux éditions Fayard.
Allez, je vous ai promis un petit mot sur le Brexit. Alice Baudry est allée regarder ce qu'il y avait de nouveau dans la semaine. Alors en vérité, ça n'arrête pas, n'est-ce pas ? Parce que la Chambre des communes, c'est une sorte de rond-point de gilet jaune permanent qui dit non à tout les uns après les autres. Mais il y a quand même eu un petit moment de rigolade. Donc Alice Baudry, directrice de la stratégie de développement de l'Institut Montaigne, me signale un petit moment de détente. Ça a été pendant le Conseil européen spécial mercredi, où on a vu la chancelière Angela Merkel approcher Theresa May pour lui montrer quelque chose sur son iPad. Et s'en est suivi un fou rire entre les deux chefs d'État. Alors on ne savait pas ce qu'elle regardait. Il y avait même eu des concours sur Twitter pour deviner ce qui pouvait bien les lier. Un montage photo des deux femmes prises plus tôt dans la journée. Les deux portaient une veste dans la même nuance de bleu vif, etc. etc. Et puis finalement, ce moment comique d'une légèreté rare a été repris sur tous les réseaux sociaux, mais aussi dans le Guardian et le Daily Mail, qui est allé jusqu'à décrypter le langage corporel de May grâce à un expert. Et sa réaction au geste d'amitié montre son désir d'obtenir l'approbation et même l'amitié de cette dernière. Voilà, c'était un petit moment de détente dans un sombre Brexit. Revenons à nos affaires, sauf que le président de la République, sur ce point, il a quand même pris une position... Alors, beaucoup ont souligné, il a pris une position audacieuse, relativement isolée contre la majorité des États européens, refusant un report trop long du Brexit. Mais il n'a pas été jusqu'à faire comme De Gaulle, qui en 65 avait décidé de faire la politique 65-67, la politique de la chaise vide, c'est-à-dire d'imposer son veto. Donc est-ce qu'il n'est pas encore là un peu dans un entre-deux, dans un en même temps un peu risqué pour lui
Bah ça, c'est quand on évalue la décision qui est prise au regard des autres options. Quand on la regarde pour ce qu'elle est,
oui.
On a la possibilité pour les Britanniques de continuer à travailler de leur côté, mais avec une limite qui est fixée, parce que indépendamment de l'issue du Brexit, il y a un moment où il faut que l'Europe s'intéresse à autre chose et avance sur autre chose. Il y a d'autres sujets que l'Europe doit affronter.
Et c'est vrai que ça paralyse, quoi. Ça anesthésie.
Ça fait deux ans que l'ensemble des regards sont tournés sur
ce sujet. Comme les Gilets jaunes, d'ailleurs, ont un peu anesthésié. Il y a un parallèle, on peut dire.
C'est un peu différent parce que les Gilets jaunes, il y a eu un grand débat donc, qui a été délimité dans le temps.
Oui, mais qui a un petit peu ralenti.
Alors, effectivement, pendant deux mois, puisqu'on disait qu'on allait en parler, on n'allait pas avancer dans le dos des Français pendant que le grand débat se déroulait. Donc,
Alors, il y a un dernier sujet que je vais aborder avec vous. Alors, spécialiste de la politique, j'ai le droit de dire ça?
Oui, non, vous avez le droit de dire ce que vous voulez. Hein.
Non, mais je veux dire, c'est exact de dire ça?
Oui.
Bon, quand même, on va y arriver. C'est la question des fake news, la question des fausses nouvelles. Écoutez ce que disait, il y a longtemps, hein, en janvier 2018, dans ses vœux à la presse, le président de la République.
Les plateformes se verront ainsi imposer des obligations de transparence accrues sur tous les contenus sponsorisés, afin de rendre publique l'identité des annonceurs et de ceux qui les contrôlent, mais aussi de limiter les montants consacrés au contenu.
Donc on peut lutter contre les fake news, David Amiel?
Oui, je crois d'abord qu'il faut s'interroger sur leur origine. On s'intéresse beaucoup souvent à, si vous me permettez une métaphore un peu économique, à l'offre de fake news. C'est-à-dire, on dit pourquoi il y a des fausses nouvelles aujourd'hui? Bah parce qu'il y a des réseaux sociaux, il y a Internet, il y a tout ça qui permet de les répandre beaucoup plus vite. C'est vrai. Mais je crois qu'il faut aussi s'intéresser à la demande de fake news. C'est-à-dire, pourquoi autant de gens croient à ces sujets-là, à ces fausses nouvelles?
Parce que pour eux, ce ne sont pas des fakes, hein, je vous signale.
Et bah, exactement. Mais donc, ce que je trouve important, c'est que souvent, les fake news mettent le doigt là où ça fait mal. Il n'y a pas des fake news sur tout et n'importe quoi. Je prends un exemple qui est la question du pacte de Marrakech. Bon, c'est une fake news qui s'est répandue.
Oui, comme quoi on prenait exactement, des engagements d'ouverture des États, frontières et on était liés
exactement,
internationalement.
Exactement, aller signer pour ouvrir les frontières, démanteler.
Et c'était absolument pas vrai.
Exactement. Et c'est quand même allé très loin, voilà. Puisque ça a conduit au renversement du gouvernement belge. Donc, c'est la fake news qui a eu le plus de succès.
Absolument.
Je pense que ce n'est pas par hasard que cette fake news qui a eu beaucoup de succès portait sur la question migratoire. Ça montre quelque chose qui est en quelque sorte l'envers du politiquement correct. Et là où il y a du politiquement correct, il y a en contrepartie de la fake news, parce que les gens ont eu le sentiment pendant plusieurs décennies que la question migratoire n'était pas traitée par les hommes politiques.
Fond, du fond des choses, même si on prend des mesures ponctuelles du type de celle évoquée un instant dans le son d'Emmanuel Macron, au fond des choses, la vraie manière de lutter contre les fake news, c'est de traiter les problèmes qui les alimentent.
Exactement.
Ah non, mais ça, alors là, vraiment, j'avais jamais entendu cette idée et je trouve ça très intéressant. Vous êtes d'accord, j'imagine?
Parfaitement d'accord.
C'est vrai, les
Parfaitement d'accord. Non, je voulais juste revenir sur ce que le président avait dit.
Revenez.
Ça répond
Emmanuel
à une,
Macron, hein,
une des stupidités qu'on avait évoquées tout à l'heure, qui est qu'en France, on ne peut pas, pendant une campagne électorale, dépenser un centime de communication ou de publicité, ni à la télé, ni à la radio, ni sur Internet, donc ni sur Facebook, ni sur Twitter. Mais n'importe qui d'autre peut le faire. Donc n'importe quel individu, n'importe quelle association, n'importe quel État étranger peut dépenser l'argent qu'il veut sur Facebook pour pousser des contenus pendant une campagne électorale qui défendent ses intérêts à lui et pas les intérêts de la France.
Donc là, c'est une vraie faille. Vous savez, ça remonte au moment de la privatisation de ce qui était la première chaîne de télévision française. Et c'est dans la décision du Conseil constitutionnel, parce qu'à l'époque j'y travaillais, donc je sais ça de très près, qu'on a mis cette interdiction de la publicité politique, qui en soi était plutôt une bonne chose.
Très bonne.
Mais qui n'est insuffisante aujourd'hui. Quoi.
Le problème, ce n'est pas qu'on ne puisse pas le faire à la télé, c'est que ce soit possible pour d'autres sur Internet.
Ouais. Absolument. Eh bien, messieurs, pour terminer, nous avons un scoop. Nous avons un scoop grâce à Jean-Luc Arblade, parce que lui sait ce que le président de la République va vous déclarer lundi ou mardi, probablement lundi. Il a eu la version chantée du discours du président de la République. C'est une version chantée, alors il a demandé à Philippe Catherine et Arthur H. de le chanter pour vous. La France a besoin de toi. C'était donc Emmanuel Macron, c'était Philippe Catherine et Arthur H. La France a besoin de toi. 2018, la France a besoin de moi comme elle a besoin de toi. C'est Jean-Luc Arblade, notre réalisateur, conseiller spécial du président de la République, qui a pris votre suite à l'Élysée. Cher Ismaël Emelien et David Amiel, je vous remercie infiniment. On peut écouter cette émission en podcast sur Europe1.fr. On peut aussi, dans les podcasts, écouter Les Présidents dans la Tourmente, une série podcastique qui commence de façon très successful, Justine.
Merci Olivier Duhamel, c'était Mediapolis. Rendez-vous samedi prochain à 10h, bien sûr.